Dans la zone, ça disquatte, est une émission autour du mal logement et de la précarité à Marseille, racontée par celles et ceux qui s'y confrontent. L'idée est de créer ensemble un espace où témoigner de leur parcours, leurs difficultés et leurs luttes quotidiennes, invisibilisées dans l'espace public et médiatique. Et bonsoir, bienvenue sur Radio Galère 88.4, votre radio préférée. Ce soir, on est à l'écoute de Alors la zone, ça disquatte, l'émission sur le mal logement. Et on se retrouve ce soir parce que on va se parler d'expulsion, de tous les types d'expulsion, en tout cas de pas tous les types, on le verra ensemble, mais des expulsions notamment locatives et des expulsions de squat. On s'en parle parce que on arrive à la fin de la trêve hivernale dans une semaine et une manifestation est appelée le 28 mars pour se mobiliser contre les expulsions qui suivent toujours la fin de la trêve hivernale et de cette période où certaines personnes sont plutôt protégées des expulsions. Ce soir, du coup, on a trois invités avec nous, Léon, Léo et Ito. Et puis au plateau, il y a aussi Sap et Sacha, c'est moi, qui vont vous parler de tous ces sujets. Et en technique, on remercie Tom et Jules qui sont avec nous pour gérer tous les aspects techniques. Voilà, ils vont nous présenter leur parcours de militants, militantes sur la question du logement et notamment des expulsions et nous faire un état des lieux de la situation, mais aussi nous donner leur clé d'analyse politique de cette situation à Marseille. Juste avant de commencer, on voulait vous faire un petit point sur la situation nationale, la situation globale des expulsions. Donc, on rappelle que en 2024, il y a 24 556 ménages qui ont été expulsés de leur logement avec le concours de la force publique, ça veut dire avec les flics, soit une hausse de 29% en un an et de 223% en 20 ans. Selon l'Observatoire des expulsions, donc ces chiffres-là, ils viennent de la Fondation pour le logement. Selon l'Observatoire des expulsions des lieux de vie informels, c'est-à-dire les tentes, l'autoconstruction, pardon, les squats, les caravanes, etc., etc., il y a en moyenne 297 personnes qui sont expulsées chaque jour de leur lieu de vie en France. Ça, c'est les chiffres de 2024. 94% de ces expulsions se font sans diagnostic social de vulnérabilité, qui est pourtant une obligation, et ont donc des conséquences graves sur la santé des personnes et sur leur mode de vie en général. Dans 88% des cas, ces expulsions, elles ne donnent lieu à aucune solution de relogement ou d'hébergement, ce qui fait que ça a des conséquences pour toute la vie. Voilà. Est-ce que, Sap, tu veux nous dire quelques mots sur l'émission pour finir cette intro ?
Oui, tout à fait. Du coup, c'était juste pour rajouter que on va principalement parler des expulsions locatives et des expulsions liées au squat, et qu'on n'aura pas trop le temps d'aborder celles qui concernent les personnes qui vivent en caravane, en tente, dans la rue, etc. Mais on pense bien fort à elles et eux, force pour tout ça. On va commencer par une première question avec toi, Léo. Si tu veux bien nous parler un petit peu du cadre des expulsions, nous expliquer un petit peu comment ça se passe.
Ouais, grave. Bah, la première chose que je voulais rappeler, c'est que l'expulsion, elle concerne toute personne. C'est-à-dire à la fois les personnes qui sont directement concernées par une procédure ou qui ont leur nom sur une sonnette d'un appartement qui en passe d'être expulsé, mais aussi tous les occupants, les habitants d'une maison qui est concernée par une procédure. Ça, je pense que c'était la chose la première à rappeler. Et voilà, si on voit les chiffres que Sacha vient de nous donner, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de monde. Voilà.
Ouais, ça fait beaucoup de monde. Et est-ce que tu peux nous dire, parce qu'on sait que tu as travaillé un tout petit peu sur le versant légal des expulsions, est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu qu'est-ce qui se passe légalement, comment c'est c'est encadré les expulsions.
Ouais, mais en théorie, les expulsions, elles sont encadrées. Elles sont encadrées pour plusieurs raisons. D'abord parce que déjà, seule la police peut expulser physiquement des occupants, des habitants d'un appartement ou d'une maison. Ensuite, parce que il y a en théorie une trêve hivernale qui dure 5 mois, qui commence le 1er novembre, qui finit le 31 mars, qui protège au moins les locataires d'une expulsion physique. Ça ne veut pas dire que la procédure de justice ne peut pas continuer durant ce moment-là, mais c'est qu'ils ne peuvent pas être expulsés physiquement. Ensuite, cette trêve hivernale, elle s'applique plus ou moins, suivant les cas, aux personnes qui vivent en squat, sachant qu'elle n'est pas systématiquement suivie et que le juge peut tout de même les expulser pendant cette période-là.
Ok, merci pour ce petit point-là. Est-ce que, Léon, concrètement, tu pourrais nous décrire, donc toi, peut-être plutôt sur le versant locatif, qu'est-ce qui amène concrètement les gens à être expulsés ? Enfin, c'est quoi qui permet qu'il y ait une expulsion des gens ?
Il y a trois motifs les plus courants pour lesquels les personnes se retrouvent expulsées. Donc là, je parle uniquement des expulsions locatives. Le plus courant, enfin le motif principal, c'est pour les impayés de loyer. Donc les personnes qui n'ont pas payé leur loyer, donc le minimum c'est 2 mois de loyer impayé, peuvent se retrouver dans une procédure d'expulsion. À Marseille, pour le parc social, enfin les logements sociaux, on n'a pas de chiffres, mais pour le parc privé, ça représente environ 4000 personnes par an, donc c'est énorme. Et les autres motifs qui sont un petit peu moins importants, c'est les congés. Donc quand un propriétaire veut reprendre son logement, ça peut être soit pour le vendre, soit pour le loger donc lui-même ou un membre de sa famille. Donc ça, c'est encadré juridiquement. Et ces trois motifs-là, donc, ils peuvent mener à une expulsion. Il y a d'autres motifs, mais qui sont quand même beaucoup moins utilisés. C'est notamment les troubles de voisinage. Et récemment, il y a un nouveau motif qui a été ajouté avec la loi narcotrafic. Il me semble que c'était à l'été 2025. Une personne qui a été condamnée pour des faits liés au narcotrafic peut être expulsée de son logement. Donc typiquement là, il y a un fait d'actualité à Marseille, puisqu'il y a quelques jours, il me semble que c'était la semaine dernière, il y a une audience, la première audience à Marseille sur ce motif-là, avec du coup une famille, enfin une mère et ses 4 enfants qui donc va peut-être se faire expulser parce qu'un des fils a été condamné pour narcotrafic. Donc voilà, c'est pour montrer qu'il y a quand même, enfin, on tend à voir de nouveaux motifs d'expulsion encore émerger.
Oui, c'est assez intéressant ce que tu dis sur la loi narcotrafic, parce que du coup, on observe bien que l'expulsion, elle ne va pas concerner seulement la personne qui est condamnée, même si c'est très grave quand même, puisque le travail de la justice, c'est pas de faire de la désinsertion sociale. Mais par ailleurs, ça concerne toute la famille, là, visiblement. Donc en fait... une personne qui est condamnée pour des faits, ça peut entraîner des conséquences extrêmement graves pour tous ses proches. On verra peut-être un peu plus tard dans quelle logique, évidemment, ça se place, cette histoire-là, mais c'est hyper intéressant. On verra les résultats de l'audience et sûrement on essaiera de vous en faire part sur cette émission quand on les aura. Mais merci d'avoir raconté ça. Je voulais me tourner un peu vers toi, Ito. Qui a connu la situation des squats à Marseille et un peu te poser la même question, c'est-à-dire qu'est-ce qui amène dans un squat les gens à être expulsés, pourquoi ça se passe, quels sont les ressorts qui amènent vers l'expulsion. Évidemment, c'est pas tout à fait les mêmes.
Ouais, c'est pas tout à fait les mêmes. Après, à préciser aussi que moi j'étais beaucoup dans des dynamiques d'ouverture de squat et de solidarité et de soutien aux personnes habitant en squat et qui étaient des personnes migrantes, exilées, la plupart du temps sans papier. Donc ça fait une petite particularité aussi, une grande particularité. Et du coup, qui par rapport au cadre légal qui vient d'être énoncé là, elles sont pas égales devant la loi, quoi. Et donc, bien souvent, elles sont ignorantes de la loi parce que c'est pas la loi du pays d'où elles viennent, parce que la France est un État raciste, enfin voilà, tout ça. Et du coup, du coup, avant même, enfin déjà arriver dans ce cadre légal, dans la procédure, c'était une petite forme de victoire, et ça pour toutes les personnes qui peuvent habiter, qui habitent en squat, en tout cas que j'ai dans les dynamiques que j'ai connues. Et parce que avant ça, avant d'être comment de réussir à rentrer dans ce cadre, il y a tout un tas de processus d'expulsion, du coup d'expulsion illégale, mais qui sont la norme et qui sont qui vont du coup de pression, enfin même, enfin je dirais, je sais pas si on veut faire un espèce de spectre, il peut y avoir le coup de pression du proprio avec ses potes véreux, avec tous ses avec ses gros bras, ou du proprio qui connaît le commissaire de la BAC de tel arrondissement, et du coup la BAC débarque avant même que il y ait constatation d'occupation par la police nationale, ou du proprio qui est tellement tellement connu que même la police nationale et les pompiers trouvent des prétextes pour expulser les gens. Là, je rentre pas dans le détail, mais voilà. Ou alors ensuite des gens qui, une fois qu'on commence même à rentrer un peu dans la procédure, il va y avoir le commissaire aux expulsions rattaché à la préfecture. Et à l'époque, nous, on l'appelait le chauve parce qu'il était chauve. Je suis moi-même un peu chauve, donc c'est pas pour shamer les chauves, mais en tout cas, c'était son blaze entre nous. Lui, il jouait un petit peu justement sur cette méconnaissance. Il arrivait avec des documents, il montrait pas vraiment les inscriptions, de façon à des gens qui arrivaient pas forcément à bien lire le français. Et il jouait sur deux tableaux à dire « je vous fais aussi de la réinsertion sociale, je suis gentil, c'est pour votre bien » et tout ça. Enfin, il était très comme ça, biface, quoi. Un gentil, un méchant, quoi. Enfin voilà, tout ça pour dire que la question de l'expulsion, pourquoi elle arrive dans les expériences que moi j'ai vécues via les collectifs d'organisation dans lesquels j'étais, c'était beaucoup sur la question raciale en fait. Hein. Il y a une machine à expulsion, et à Marseille particulièrement, dans toutes les grandes villes, mais Marseille c'est particulier aussi, il y a une machine à expulsion de toutes les personnes immigrées pour les maintenir en précarité, pour qu'elles... Et puis après, en général, les propriétaires ont très peur de... Il y a une mauvaise presse sur les squatteurs, sur les occupations, et du coup, on y reviendra, mais il y a une idéologie de la propriété privée dans ce pays, voilà.
Merci pour ces précisions. Et oui, là, quand même pour préciser, la grosse différence aussi, c'est que quand on habite en squat, on est très probablement amené à vivre une expulsion, puisque c'est une existence dans l'habitat qui est illégalisée en France et qui l'a été de plus en plus. Ce qui m'amène à vous demander un petit peu, puisqu'il y a eu le passage de la loi Casbarian par là, qui a rendu encore plus illégal les conditions d'occupation quand on devient moins, quand on n'est pas un locataire bon payeur, etc. Et donc j'aurais voulu savoir peut-être, Léon, si tu peux nous dire un petit peu ce que ça, quels effets toi tu as pu observer de la loi Casbarian. Est-ce que tu peux nous la décrire un tout petit peu, et peut-être que ça, si ça t'amène à revenir sur les procédures juridiques, l'ordre des procédures juridiques qui amène une locataire à être expulsée. Qu'est-ce que tu as observé là sur ces dernières années? La loi Casbarian, je le rappelle juste vite fait, c'est 2023.
La procédure d'expulsion locative, donc, comme tu disais, elle est encadrée. Elle passe par des étapes qui sont les suivantes. Le premier stade, là où commence la procédure, en théorie, c'est pas par le contentieux directement, c'est le locataire qui, donc si c'est en cas d'impayé, je vais parler beaucoup des impayés vu que c'est quand même la majorité des cas de procédure d'expulsion, le locataire, il reçoit un commandement de payer, et en théorie, il a, avec la loi Casbarian, 6 semaines pour, on va dire, régler sa dette, repayer son loyer. Sinon, il se fait donc assigner au tribunal. Et là, pareil, donc on passe de... avant, c'était 2 mois entre le commandement de payer et l'assignation. Et c'était 2 mois entre l'assignation et l'audience effective au tribunal, donc devant le juge qui va décider de l'expulsion. Et pareil, là, ce délai-là, il est aussi passé à 6 semaines. Donc ça raccourcit vraiment... Enfin, ça peut paraître pas énorme, mais en fait, c'est beaucoup de travail entre-temps, déjà pour essayer de repayer son loyer, pour trouver une solution avec le bailleur. Et même en termes d'accompagnement à côté de ce qu'on peut aller chercher comme aide, etc., c'est quand même significatif. Et donc après l'audience, c'est là où donc le juge décide si le locataire se fera expulser ou pas. Et en termes de changement induit par la loi Casbarian, je pense que c'est là où c'est le plus significatif, parce que avant, le juge avait un pouvoir d'appréciation sur la situation. Donc il regarde la situation, la vulnérabilité du ménage, le montant de la dette, les capacités à rembourser, etc. Et là maintenant, il doit se baser, avec la loi Casbarian, il y a des motifs très précis dans la loi qui indiquent, donc en fait le juge il doit suivre ces principes-là. Donc le premier, c'est la présence à l'audience. Si le locataire n'est pas présent, il va de fait être expulsé. Ça, c'est hyper chaud, parce qu'en vrai, il y a plein de locataires qui ont reçu le courrier de convocation, ne lisent pas leur courrier, ne comprennent pas même les courriers administratifs, parce que bon, ça s'entend, quoi. Ou même ne sont même pas au courant, qui sont en procédure. Enfin, moi, je vois des gens qui sont au stade presque de l'expulsion et qui ça prend des aides. Enfin, ça prend plus d'un an, souvent, une procédure. Ils ne sont pas au courant qu'ils sont en procédure d'expulsion. Il y a des huissiers qui ne délivrent pas aussi les actes, ça c'est illégal, mais ils le font. Donc en vrai, il y a plein de gens qui ne sont pas au courant, donc qui ne viennent pas à l'audience. Et du coup, ça, c'est avec la loi Casbarian, une personne qui a des capacités à rembourser et qui a même déjà remboursé sa dette, peut-être elle est expulsée parce qu'elle n'était pas présente, quoi. Et l'autre gros point aussi qui a fait augmenter le nombre d'expulsions, c'est le fait que le locataire doit se présenter à l'audience et avoir remboursé déjà, commencé à rembourser le loyer en totalité du mois d'avant. Enfin, c'est un peu technique, mais en gros, il faut le savoir. Et si tu arrives à le faire, c'est bien. Mais il y a plein de gens qui ne le savent pas, qui remboursent petit à petit comme on ferait pour une dette. Donc, ils payent un petit peu chaque mois en fonction de leurs ressources. Donc ça ne marche plus. Et c'est des changements hyper importants parce qu'il y a plein de ménages qui ne sont pas accompagnés, qui ne sont pas au courant. Plein de locataires qui se font expulser alors qu'ils ont commencé à rembourser, qui sont là. Donc ça, c'est les gros changements et c'est ce qui a fait augmenter de ouf les chiffres des expulsions aussi depuis 2023.
Et merci, c'est hyper clair. Et du coup, vers son squat, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur qu'est-ce que ça a changé, cette loi puisque, en fait, je parle versant locatif, versant squat, parce que la loi, elle a été vraiment conçue de cette manière-là, même si elle a été énormément vendue comme étant la loi anti-squat, mais on voit bien que ça a beaucoup de conséquences sur plein d'autres personnes habitantes. Mais du coup, versant squat, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être Ito ou Léo
Déjà, ce qui est important, je pense, à préciser là-dessus, c'est que après une audience, en théorie, je ne sais plus si ça a été dit juste avant, mais les occupants ont 2 mois pour quitter les lieux. Sauf qu'il y a la possibilité parfois d'obtenir un délai pour rester plus longtemps dans les lieux. Depuis la loi Casbarian, il n'y a plus de possibilité d'obtenir un délai pour des squatteurs en cas de mauvaise foi ou de manœuvre, menace, voie de fait ou contrainte, qui sont des qualificatifs très très souvent retenus par le juge. Donc en fait, concrètement, ce qui se passe, c'est que tu as une limitation drastique de la possibilité pour des personnes qui vivent dans un lieu de pouvoir y rester après une audience. Autre chose particulièrement importante, c'est quand même l'augmentation de la répression envers les squatteurs, avec rien que, par exemple, le fait que ce soit passé au pénal maintenant, le fait de rester dans un squat, avec le fait de se maintenir, qui passe maintenant à 3 ans de prison, 40 000 euros d'amende. Je rajouterais aussi rapidement que sont pénalisés aussi ceux qui se maintiennent dans un logement vide, et aussi ceux qui soutiennent qui font de la publicité des conseils pour les gens qui vivent dans un squat.
Ouais, ce qui rend très compliqué, du coup, évidemment, l'existence dans les squats. Tu voulais rebondir un dernier mot, Ito?
Ouais, peut-être par rapport à ça, juste... Moi, je suis un peu sorti de ces dynamiques, de ce cœur, même s'il continue bien à suivre et à soutenir et tout, mais au moment un peu justement du vote de la loi Casbarian et tout. Mais du coup, pour mesurer peut-être un peu sensiblement ce que Léo vient de dire, il y avait vraiment... c'est vraiment une boîte à outils supplémentaire donnée à l'expulsion et de manière assez vénère. Enfin, ce truc justement de criminaliser le fait de rester dedans, de se maintenir, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant la loi Casbarian et c'est une pression supplémentaire sur psychologiquement ça use énormément alors que c'est déjà quelque chose de vivre en squat. C'est beaucoup d'incertitudes, c'est souvent hyper joyeux, mais c'est quand même beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'organisation, beaucoup jouer avec des articles de loi qu'on ne maîtrise pas forcément. Et du coup, avant, il y avait ce truc où on faisait le régime de preuve des 48 heures. Ça fait 48 heures qu'on est là, on a réussi à le montrer. La police nationale vient, l'huissier vient. Hop, ensuite, il y a une procédure. On peut durer comme ça entre 6 mois et 2 ans de squat. Et là, on a pu voir depuis la loi Casbarian que c'est... que ça s'est réduit de 2 mois à 1 an max, quoi. Enfin, sauf pour des... Après, ça dépend. Les juges ont un peu leur préféré en fonction du type de squatteuse, évidemment. Mais voilà. Et peut-être aussi rajouter un petit truc, un petit changement que moi, j'ai vécu au moment de mon dernier squat. Il y a 2-3 ans, où en termes de répression, si pour appuyer ce que tu disais... où systématiquement commençait à se mettre en place que les huissiers venaient accompagnés d'un OPJ ou de flics pour rentrer dans les squats et avoir des vraies identités, alors que il y avait beaucoup ce jeu-là de pouvoir mettre des noms qui n'étaient pas nos noms à l'état civil pour pouvoir rester scred et continuer à ouvrir et tout ça. Et en fait, là, il y avait une vraie recherche d'identité. Et je pense que ça continue d'ailleurs cette voilà, je sais pas, à vérifier.
Ouais, juste avant de finir, on sait que de toute façon, la répression, elle a effectivement augmenté, puisqu'il y a eu des procès qui se sont tenus à Marseille contre des personnes qui vivaient en squat et qui ont été condamnées du coup au pénal, alors que précédemment, on était condamné à l'expulsion au tribunal administratif, mais ça n'a évidemment rien à voir. Alors, Léo, tu voulais ajouter un dernier mot, vraiment dernier mot, et après on va passer à autre chose.
Juste faire un lien avec tout ce qu'on a dit pour les personnes exilées, justement, le passage au pénal de la loi Casbarian double le risque et précarise encore plus des personnes qui n'ont pas de possibilité de se loger dans le marché légal, qui peuvent du coup pas se loger autrement, puisqu'ils sont pénalisés au pénal.
Oui, ce qui entraîne des situations évidemment juridiques extrêmement compliquées, notamment pour les personnes qui n'ont pas les bons papiers dont on a parlé tout à l'heure. Et donc je vais juste laisser la parole à Sap qui va nous introduire la suite de notre émission.
Tout à fait. Alors on va faire une petite pause et s'écouter une capsule audio, un enregistrement d'une quinzaine de minutes de Camille, qu'on remercie, qui a bien voulu témoigner pour Radio Galère. Et voilà, qui va nous raconter un petit peu son histoire de logement à Marseille.
Alors, la zone Sadisquat sur Radio Galère.
On est dans une rue qui s'appelle la rue Barthélemy et qui est une rue du quartier de la Petite Plaine, qui est dans le premier, et qui est une petite rue plutôt calme à côté de cette place qu'est la Plaine, et pas loin d'un immeuble qui est un immeuble dans lequel j'ai vécu pendant à peu près 7 ans et dans lequel je vis plus depuis quelques mois suite à un délogement d'urgence. C'est un immeuble qui est sur 5 étages. Le cinquième, c'est des combles qui ont eu plusieurs vies sur ces 7 années, puisqu'il y a eu d'abord un propriétaire qui les a condamnés parce qu'il avait peur d'être squatté, et ensuite le propriétaire d'après qui les a complètement pétés parce qu'il voulait essayer d'en faire des logements, et voilà. Et en dessous, il y a les autres étages. C'était un appart par étage qui était sensiblement les mêmes celui dans lequel je vivais. On était en coloc. On a emménagé donc il y a 7 ans dans cet appartement et on était une grosse coloc d'amis. Et la plupart, enfin seulement 2 personnes étaient sur le bail au départ. Et à vrai dire, je pense que je me posais pas du tout cette question à l'époque parce que j'avais pas encore vu la suite. Je me la suis posée très rapidement parce que comme j'étais au RSA, j'ai pas pu toucher de CAF pendant toutes les années durant lesquelles j'étais au RSA, et c'est vrai que donc là la question s'est particulièrement posée à ce moment-là. surtout à partir du moment où je me suis rendu compte que c'était pas si facile d'y rentrer derrière, et alors qu'on y vivait depuis des années et que et voilà. Au départ, c'était une propriétaire qui, je crois, était une multipropriétaire très vieille. C'était une agence qui s'occupait de cet immeuble. Et elle est morte. Et en fait, suite à ça, l'immeuble a été racheté par trois frères. Et donc, eux, quand ils sont arrivés, ils nous ont clairement dit qu'ils voulaient qu'on s'en aille. Et ils ont dit la même chose à l'ensemble de l'immeuble. Et ils nous ont proposé une somme d'argent qui était, bon, en plus, absolument ridicule. Il y a quelques personnes dans l'immeuble, notamment la colocation d'en bas, qui étaient des gens qui, en fait, qui savaient qu'ils allaient trouver mieux et que c'était une période de leur vie, puisqu'ils étaient jeunes en école de médecine, et que du coup, voilà, quelque chose de mieux les attendait par la suite. Donc là, ils sont partis à ce moment-là. Et il y a un autre étage aussi, enfin un autre appartement qui est parti, pareil, pour à peu près les mêmes raisons. Et donc là, ils avaient réussi à vider deux appartements. Et donc ces deux appartements sont restés vides pendant 6 mois, même peut-être plus. Et donc il y a un de ces deux appartements qui y a un squat qui a ouvert dans un des deux appartements. Et donc ça ça n'a pas plu aux propriétaires, qui a absolument rien respecté en termes de démarche et voilà, qui a vraiment fait n'importe quoi, qui était, enfin, au moment de l'ouverture du squat, qui était prêt à défoncer lui-même avec ses hommes de main, parce qu'il avait des hommes de main la porte. Il y avait des espèces de petites menaces un peu induites et de toute façon, avant ça, il y a eu quand même pas mal de procéder d'intimidation pour qu'on s'en aille et bon, voilà, c'était pas du tout dans nos projets de s'en aller. Et le jour où ils ont expulsé au bout de 6 mois ce squat, ce jour-là, ils ont rempli l'immeuble de vigiles et en fait on m'a expliqué que personne ne pouvait rentrer chez moi. Et je ne pouvais pas croire cette chose-là. Donc quand je suis rentrée vers minuit et que j'ai aperçu quelqu'un devant ma porte calé en train tranquillement de siroter son coca sur une petite chaise pliante et m'expliquant que je ne pourrais plus rentrer chez moi, c'était un peu bizarre. Et en fait, cette chose-là a duré pendant 2-3 jours où effectivement j'ai cru que j'allais pas du tout pouvoir rentrer dans cet appartement dans lequel je vivais à l'époque depuis 4 ans. Expliqué qu'il fallait que je montre mon bail. J'ai expliqué que, en fait, pour montrer mon bail, même si moi j'étais pas dessus, j'avais quand même un bail, il fallait quand même que je rentre dans cet appartement. Et en fait, bon, là, ça a été, c'était impossible. Ils étaient clairement violents. Et donc là, après, bah voilà, plusieurs jours où tout d'un coup je me suis posé cette question-là, de me dire, mais en fait, là, si j'ai pas de bail, effectivement, peut-être que je vais plus pouvoir rentrer dans cet appartement. Et ce qui est complètement absurde et. Finalement, il a été possible de rentrer dedans, et là, pendant plusieurs jours, personne d'autre que moi pouvait rentrer. Il y a un fichage qui s'est mis en place et qui se justifiait par le propriétaire, par le fait que lui savait reconnaître les squatteurs qui sont et du coup que c'était une pratique normale que de faire du fichage et de dire que telle ou telle personne pouvait rentrer ou ne pas rentrer ou voilà. Le propriétaire a fini par lui-même, je pense, se rendre compte que ces pratiques finiraient par ne pas rester impunies si jamais il continuait. Et donc finalement, il a fait partir tous les vigiles et on a pu rester. Et quelques mois plus tard, il a revendu l'immeuble. Et donc là, s'en est suivi ils ont démarré leurs travaux dans les deux appartements qui avaient été vidés. Et où ils ont transformé en 9 appartes en l'espace de quelques mois. Donc là, évidemment, pendant le temps de ces travaux-là, ils ont absolument, absolument pas du tout respecté rien dans l'immeuble, et que ce soit l'immeuble, mais que ce soit surtout les habitants et habitantes de l'immeuble. Ils ont engagé les ouvriers qui travaillaient, notamment un ouvrier travaillait, je pense, 7 jours sur 7 et dormait dans les combles qu'ils venaient de réouvrir. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai été à un moment où il y avait à la fois le fait de pas lâcher, de vouloir rester dans cet appartement et de pas vouloir partir pour toutes ces raisons-là, et aussi de vouloir obtenir que en fait ils se mettent à faire des travaux pour en fait là, ben, déjà d'arrêter de détruire l'immeuble, mais aussi en fait de rendre salubre ce qui devenait de plus en plus insalubre par manque de soins et voilà. Il y avait surtout le fait de ne pas vouloir lâcher. Et en fait, là-dessus, jusqu'à ce qu'ils finissent par réussir à faire partir aussi les voisins qui étaient juste en dessous de mon appartement. Et dans lequel ils ont fait des travaux, là, pareil, vraiment d'un coup. Et en fait, qui ont fini de... Enfin, en l'espace de 4 ou 5 jours, ils ont pété... ils ont pété tous les murs, et en fait je crois que c'était des murs porteurs, enfin, d'ailleurs je crois c'était inscrit noir sur blanc sur le document de la mairie qui leur disait qu'il fallait pas qu'ils fassent leurs travaux, et voilà, en 4 jours ça, enfin, tout d'un coup des fissures tout, et là les logements d'urgence.
Sick, fuck the fat enough creature. Only on Sunday, gather the feast Sundays. Clock in the town, people go weak at the knee. The freak at the car, wait in line for about an hour just to shoot up a skirt and take a photo. Let's go, power. See my house, yeah, it's made of fucking cake. The walls, the floors, the halls, I've even got a lay.
Donc là, j'ai été délogé d'urgence il y a quelques mois. Et donc ce terme vient du fait que c'est le terme employé par la mairie et par je sais plus qui exactement qui sont venus à ce moment-là lors de ce délogement. Et donc ce qui s'est passé, c'est que depuis quasiment une semaine, il y avait de nouveaux travaux pour transformer le dernier appartement qui avait été vidé. Et ils ont, comme ils ont tout mis à plat avant, je suppose, de refaire de faire des lots aussi à l'intérieur ou peu importe, mais en tout cas ils ont tout mis à plat. Et donc là en fait à nouveau énorme fuite et après de grosses pluies, et là à nouveau j'ai quelqu'un au téléphone qui m'explique qu'ils vont faire venir quelqu'un effectivement, qu'ils peuvent pas laisser comme ça et tout ça. Non, qu'ils vont faire venir, là c'était le propriétaire les gérants etc, et ils m'ont dit qu'ils allaient envoyer quelqu'un parce qu'il fallait effectivement ne pas laisser dans cet état. Et donc à nouveau quelqu'un vient et pareil, pas pour réparer le toit là cette fois, pour faire les travaux dans l'appartement en dessous. Et donc travaux qui durent un peu moins d'une semaine, où on sent quand même un peu tout trembler. Et en fait le jour de, donc ce fameux jour de délogement d'urgence, en fait j'ai pas inspecté tous les murs la veille ou l'avant-veille ou je sais pas quoi, mais on s'aperçoit que le mur qui donne, enfin entre la cuisine et le salon, était entièrement fissuré à l'horizontale. La fissure était, on voyait quand même à travers, que les cadres de portes s'étaient quand même éloignés des portes. Et il y avait vraiment des fissures qui faisaient pas forcément la totalité des murs, mais qui étaient tout à l'horizontale. Enfin là, ça dénotait quand même d'un problème. Donc là, le voisin avait un ami qui travaillait autrefois, qui était architecte autrefois au Péril, qui est venu et qui là nous a expliqué qu'il fallait qu'on appelle d'urgence le Péril. Et les pompiers, enfin, je sais plus dans quel ordre, et que en fait, quand ils allaient venir, qu'on allait devoir partir très vite. Donc il fallait essayer, si on voulait évidemment sauver nos affaires, essayer de faire ça le plus rapidement possible avant qu'ils ne viennent. Là, ils nous expliquaient que ça allait évidemment pas tomber dans les heures, enfin qu'on pouvait justement essayer de se prévenir de ça parce que une fois qu'ils viendraient, là pour le coup, ça allait être très rapide. Et donc à ce moment-là. Comme j'ai la chance d'être très bien entourée, j'ai beaucoup d'amis et de gens qui sont venus. J'ai eu la possibilité, oui, qui ramènent des camions, des choses. Et où là, on a fait un déménagement express. Et là, dans la foulée, oui, on a appelé le péril. Et effectivement, il fallait faire ça très rapidement. Et donc voilà, en quelques heures, j'ai déménagé 7 ans de vie. et j'ai eu encore une fois la chance de pouvoir le faire, parce que je pense que dans beaucoup de cas, enfin déjà même rien que le fait d'avoir la possibilité d'avoir un contact de quelqu'un qui vient et qui dit que, enfin là, de passer non plus à la panique immédiatement et qu'il y a des réglementations après qui suivent, mais que là de se dire ok, il y a quand même moyen avant d'appeler là de faire un petit truc. Le fait d'avoir des gens qui ramènent un camion, le fait d'avoir du monde qui est en possibilité de venir, bah voilà, ça c'est un peu, c'est quelque chose. Et voilà, en fait ça s'est conclu comme ça. Et en fait derrière, ils ont mis un papier sur la porte qui indiquait que c'était un péril imminent sur à partir du troisième étage jusqu'au comble. Et voilà. Et donc là, suite à ça, j'ai une des personnes qui a vécu aussi dans cet appartement, qui vivait là dans une coloc et qui m'a directement dit qu'il y avait une chambre qui allait se libérer peu de temps après. Donc là, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Et c'est un appartement qui reste dans ce quartier de la Plaine. Et voilà. Et donc suite à ça, là j'ai eu pas mal. Il y a un peu un truc où même sur ces années, enfin surtout donc ces dernières années avec les deux derniers propriétaires et tout ce que ça a impliqué, ces rapports de force là. Mais en fait je me suis aperçue à plusieurs reprises que le moment où les vigiles nous avaient empêchés de rentrer dans l'appartement, qu'à ce moment-là ça a fait un espèce d'énorme vertige, de réclamer quelque chose qui est absolument logique, qui est de pouvoir rentrer dans son appartement, dans lequel on vit et dans lequel il y a ses affaires et voilà, et après à vrai dire quel que soit son statut à l'intérieur de cet appartement là. Et en fait je me suis rendu compte que ce vertige là a duré quelques jours, et à partir du moment où je suis rentrée dans l'appartement tout allait bien, et parce que j'ai des papiers, je suis dans une situation où en fait ça va bien pour moi et où je pense que j'ai pas été confrontée au fait d'empêchement quelconque à plein de niveaux, ça a fait que je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes dans la même situation et qui, je pense, arrivent vraiment souvent de se retrouver à avoir des gens qui, en fait, par la force, disent tu te barres de là ou je sais pas quoi. En fait, le font, parce que derrière, il y a plein d'autres enjeux qui rentrent en compte. Et là, moi, ça n'a pas été mon cas. Et je pense que, et il y a ça, et le fait, encore une fois, d'être hyper bien entourée, mais aussi de personnes qui connaissent énormément de choses à propos même des quelques lois qu'il est possible d'utiliser et qui sont quand même en place. Et voilà. Et en fait, en tout cas, de pas laisser une forme de peur ou un truc. Parce qu'il y a un gros flou, et parce que en fait, comme la plupart des gens, je suis pas au courant de plein de trucs juridiques et qui font que si je les avais su, même il y a d'autres choses que j'aurais évitées, mais en fait, le fait d'en avoir su la plupart d'entre eux, ça a fait que là, j'ai pu rester aussi.
Et nous voilà de retour sur le plateau de Alors la zone, ça discute sur Radio Galère. Une histoire qui regroupait quand même pas mal de choses, des propriétaires véreux, du Airbnb, des squats, une expulsion illégale, un délogement. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui voudraient réagir à chaud sur ce que vous venez d'entendre, si ça vous évoque des trucs par rapport à vos expériences militantes, je sais pas.
Bah ouais, peut-être je vais. Bon, après, je connais la situation parce que j'avais pas fait gaffe, mais j'ai vécu dans cet appart aussi, donc c'est marrant. Mais du coup, j'ai vécu le truc des vigiles et tout ça, notamment. Ça, c'était un truc que j'avais rarement vu. Enfin, voilà. Peut-être juste redire que. Enfin, elle le dit assez bien. Hein. La copine là, mais que ça fout les gens dans des états pas possibles aussi. Enfin, je veux dire, ça atteint, ça traumatise, ça affecte. Et mais que voilà, ce qu'elle raconte très bien aussi, c'est les mouvements de solidarité en fait, et ça rappelle la nécessité de vraiment être attentive à ça. Et parce que là, c'était un bon exemple aussi de c'est la solidarité entre les personnes, entre les amis, les camarades qui fait que on vit des situations de merde, mais on arrive à trouver des solutions et même on gagne certaines choses. Enfin voilà.
Ok, ouais, tout à fait. Et du coup, petite question comme ça, une fois qu'on est expulsé, que ce soit parce qu'on vivait en squat ou parce qu'on avait un logement qu'on louait, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi nos options? Comment on se reloge? Je sais pas, Léon?
C'est un peu le problème, quoi. En théorie, là, typiquement, dans la situation qu'évoquait Camille dans la capsule, quand t'es délogé, t'es censé avoir des propositions de relogement. Enfin, en théorie, il y a des solutions qui doivent être proposées. C'est rarement le cas. Parfois, c'est même pas du tout le cas. Et pour parler des expulsions locatives, donc à la toute fin de la procédure d'expulsion, il y a un travail qui est censé être fait par les services sociaux pour aider les personnes à retrouver un logement ou à trouver une place en hébergement d'urgence. Et pour avoir suivi un peu des situations de personnes qui arrivaient en bout de procédure d'expulsion et qui allaient bientôt être se retrouver à la rue, c'est jamais le cas. Et donc, comment tu fais dans ces cas-là? Comme je disais, tu contactes les personnes autour de toi. Tu vas avoir des assistantes sociales, tu essaies de trouver des solutions, mais en vrai, la plupart des expulsions qui ont lieu donc avec la police, donc quand les personnes ne sont pas parties, parce que souvent quand elles partent, c'est qu'elles ont trouvé une solution, quand elles arrivent au bout, qu'elles se font expulser par la police, souvent, il n'y a rien qui leur est proposé derrière, et elles n'ont pas forcément réussi à trouver une solution, dans le sens où tu te fais expulser d'un logement où tu es depuis 10 ans, où tu payes un loyer... d'il y a 10 ans, et là tu te retrouves avec des logements plus petits pour deux fois plus cher. Évidemment, tu pouvais pas payer ton loyer déjà, tu vas pas pouvoir payer celui-là, quoi. Donc, c'est un peu compliqué.
Et s'il y a une expulsion illégale, est-ce qu'on peut se retourner contre les expulseurs illégaux? Est-ce qu'il y a moyen? Parce que ça arrive, est-ce que les gens font des procès aux propriétaires?
Moi, en tout cas, je sais pas. La seule chose que j'ai su d'une avocate, en tout cas, c'est que c'est des procédures qui sont possibles au pénal et au civil, mais qui sont très compliquées et très longues, très complexes. Voilà, donc les possibilités ne sont pas évidentes.
Et il y a aussi pas mal de gens qui. Ça va. En fait, si c'est des personnes qui se font expulser, comme c'était raconté dans la capsule, par des vigiles, par des. Même parfois par le proprio qui vient et qui expulse la personne de force alors que c'est complètement illégal, tu peux aller en théorie porter plainte. Donc voilà, comme disait Léo, essayer de te lancer dans une procédure. Il y a plein de flics qui prennent même pas les plaintes pour ces personnes-là. Donc en fait, parfois la procédure, même pour la démarrer, c'est une galère. Il faut vraiment être accompagné. Donc même ça, voilà. Et il y a d'autres motifs d'expulsion. Illégal aussi qui existe. Il y a beaucoup de situations de personnes qui donc se prennent des congés pour vente. Donc c'est-à-dire que le propriétaire veut récupérer le logement et pour le vendre, la personne elle se fait expulser, elle part et en fait le logement il n'est pas vendu, il est remis à un loyer plus cher, il est mis en Airbnb et ça c'est illégal mais c'est pas vraiment possible de le contrôler parce qu'en fait une fois que la personne elle a quitté le logement après un an de procédure qu'elle a tout essayé et tout, elle a pas que ça à faire d'aller contrôler si le logement il a été effectivement vendu ou pas, genre juste elle passe à autre chose, donc ça il y a pas de moyen de contrôle sur ça alors que c'est complètement illégal quoi.
Ouais, Ito, tu voulais réagir?
Ouais, peut-être. Là, je crois qu'il s'est posé la question de. Parce qu'il y avait de quoi porter plainte sur cette affaire-là, qui a été mentionnée. De toute façon, ce propriétaire avec trois autres propriétaires, il a été en procès, mais c'est la mairie qui a porté plainte pour non-respect. Enfin, en gros, il disait qu'il faisait des bureaux et en fait, il faisait du booking, c'est-à-dire Airbnb, mais c'est pour en mentionner un autre salopard du milieu, c'est Booking, qui la plateforme qui profite de ces appartements-là. Bon, et du coup, et ça marche parce que ce procès-là, il a été un peu médiatisé et tout ça. Après, la mairie s'est fait une com' de ouf juste avant les municipales avec ce truc et ça revient pas forcément. Le résultat de ce procès, on l'attend, mais ça va pas être en faveur. Les retombées vont pas être en faveur des locataires, de ceux qui ont vécu et tout. Après, c'est des longues procédures. On n'a pas forcément les moyens et l'énergie de se lancer dedans. C'est le problème de la justice. Et après, mais c'est un moyen de pression pour trouver d'autres choses. Et après, j'ai un exemple en tête d'un propriétaire qui ont perdu en procès pour une expulsion de squat, cette fois-ci, où l'expulsion avait été réalisée avant la procédure légale, justement, où je mentionnais tout à l'heure très rapidement le fait que, t'es un architecte. T'as participé à la création de tel musée national et en fait même tu vis à Dubaï et en fait du coup tu connais le gratin et du coup tu peux faire en sorte que et les pompiers et les flics soient un peu de mèche pour t'expulser de l'immeuble. Bon, ça c'est arrivé et en fait ce propriétaire il a quand même perdu en procès face aux potes et ça fait, ils ont pas eu de dédommagement mais ça fait jurisprudence et ça c'est important je pense, c'est une grosse bataille de jurisprudence en fait dans la bataille juridique dans les squats peut-être si tu veux en parler Léo, mais en tout cas ouais c'est il y a beaucoup de trucs. Vu qu'il y a deux droits qui s'opposent, le droit à la propriété et le droit au logement opposable, qui est plutôt d'après-guerre, inspiration communiste et tout ça, 1948, du coup, il y a beaucoup de choses qui se font sur la jurisprudence. Et quand on a une jurisprudence récente en faveur des squatteuses, ça profite à toute la lutte quelque part. Et du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger non plus cette question-là de la lutte via les cours de justice, même si c'est vraiment pas notre monde, quoi.
Ouais, et puis moi je voulais rajouter un point sur les expulseurs illégaux. C'est difficile d'avoir des chiffres sur le sujet parce que la préfecture ne fait pas d'inventaire. Par contre, on se rend compte qu'il y a quand même de la documentation, des enquêtes qui ont été menées. Il y a des choses assez cocasses. À Marseille, par exemple, 2021, je crois, une brigade anti-squat avait été montée par un entrepreneur, qui a duré plusieurs mois, qui a réalisé plusieurs expulsions. Qui a même demandé un agrément à la préfecture pour être autorisée dans les expulsions avec violence. La préfecture lui a refusé cet agrément-là et il a fini par se reconvertir dans une entreprise en huile essentielle. Voilà, pour l'info. Mais en fait, ce n'est pas un cas isolé. Je pense que c'est quelque chose d'assez important. Là, dans l'extrait, on mentionnait Black Corp Project, à savoir qu'on sait que les patrons de ce genre d'entreprise-là ont pour habitude de déposer le bilan assez régulièrement, reconstruire une autre entreprise sous un autre nom et continuer les mêmes pratiques. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec les congés, avec les pratiques d'entreprise illégale, c'est des choses qui sont de plus en plus systémiques, qu'il faut prendre comme ça. Ce n'est pas des épiphénomènes. Voilà.
Donc, il faut qu'on reste vigilant et vigilante. Ouais, une dernière chose, Vito, et après...
Par rapport à Black Corp Protect, je pense que c'est important de redire ce nom. Je ne sais pas s'ils existent encore, mais je pense que oui. Black Corp Protect, voilà, ça fait partie des pires ennemis sur Marseille, sur la question du logement. Et juste parce que c'est la boîte qui a expulsé des squats, et c'est la boîte de Vigile qui a empêché la pote de rentrer dans son appart. Personnellement, en plus, j'ai été menacé vertement. Et c'est des personnes très impressionnantes, très musclées, qui vont à la salle tous les jours et qui vont à la salle avec les flics. En fait, à ce moment-là, on a déposé plainte parce que c'était interdit de nous interdire de rentrer dans un appartement, d'interdire la pote qui habitait. Et du coup, il a fallu qu'on dépose plainte. Et la première équipe de flics a été plutôt favorable, on va dire, même si ça a pris un jour et demi d'intervenir, c'est-à-dire qu'il y a une nuit où on ne peut pas venir, on peut pas dormir dans son logement. Et la deuxième équipe de flics, puisqu'ils sont revenus, c'est de l'usure, la deuxième équipe de flics, directement, en fait, le gros chef de la sécu, là, qui était là, méga costaud, il connaissait deux flics dans cette équipe. Et tout à coup, c'était plus à nous que les flics parlaient, c'était au type, et on se faisait envoyer chier, alors que c'est nous qui avions joué le jeu du gentil citoyen. Et juste en diguant un peu sur cette boîte, Black Corp Protect, c'est des gens qui font la sécu sur des plateaux de W9, de M6, qui sont dans le Star System aussi à fond, quoi. Enfin, voilà, tout ça pour dire un peu les connexions. On est face à des gens qui ont des connaissances chez les pires crapules.
Complètement. Qui, en plus, utilisent la loi quand ça les arrange, mais qui sont vraiment... aucun problème à la contourner aussi pour arriver à leur fin, quoi. Léo, tu voulais réagir rapidement et puis après on enverra une petite musique pour faire une petite pause et passer à la dernière partie de l'émission.
Ouais, en quelques mots juste, effectivement d'ailleurs c'est pas la première affaire où on les voit en lien avec la police, la BAC notamment, mais juste pour dire qu'il y a un article qui a été publié sur squat.net, vous tapez probablement expulsion, un de la plaine, Black Corp Project, vous trouvez toutes les infos, y compris le nom du propriétaire, l'adresse de son entreprise sur le Prado je crois, voilà, n'hésitez pas.
On le fera. Allez, musique.
Et on est de retour sur le plateau de Radio Galère 88.4 avec alors la zone Sadisquat. Et on continue notre émission du coup sur les expulsions. On vient d'écouter Théodora, c'était super. Merci beaucoup pour cette proposition qui vient de nous inviter. On voulait se parler un petit peu suite à cet état des lieux des stratégies et des luttes collectives qui ont été mises en place face aux expulsions, face à tous ces types d'expulsions et puis qui sont en train de se mettre en place aussi. Mais voilà, on aurait envie de savoir quelles sont les stratégies politiques qu'on peut employer. On a entendu hein, les solutions un petit peu possibles face à la justice, ou en tout cas vis-à-vis de la justice, ou en faisant des recours à la justice, mais aussi les solutions de solidarité avec les communautés qu'on a autour de nous et qui sont extrêmement importantes. On le rappelle que pour survivre, c'est important d'avoir des communautés autour de nous. Mais voilà, vous êtes des personnes qui avaient milité ou qui militaient sur ces questions d'expulsion, de logement. On aimerait vous entendre sur les stratégies, notamment peut-être en commençant par toi, Ito, sur celles qui ont été employé, on va dire, avant la loi Kasbarian et plutôt sur le côté squat, suite à une expulsion de squat, qu'est-ce qui peut se passer et comment on peut s'opposer aux expulsions? Qu'est-ce qui a été tenté? Est-ce que toi, tu vois un peu...
Ouais, carrément, j'ai des exemples, j'ai pas mal d'exemples en tête. Donc déjà, à l'époque, mais je pense qu'il existe toujours, il y a un réseau intersquat, de solidarité, même de solidarité, des brouilles matérielles et tout ça. Et ça, c'est important de se mettre en réseau, de partager les connaissances, un peu comme, et de partager l'expérience, un peu comme on fait là, et d'essayer d'évoluer ensemble dans la ville, même si on n'est pas toujours... ok sur tout, enfin d'accord sur tout et tout, mais ça voilà, c'est un peu la base je dirais. Et puis après moi l'exemple que j'ai bien envie de raconter, c'est la question de la campagne réquisition qui avait été lancée à cette époque là et qui a continué et qui continue jusqu'à maintenant, enfin en tout cas moi j'en fais plus partie, mais ça fait plaisir aussi justement entre parenthèses de voir que les choses continuent même quand nous, on ne continue pas. Enfin, voilà, et je pense que ça, c'est une vraie force aussi. Et puis, c'est une vraie force du réseau et du milieu voilà, de pouvoir renouveler les énergies. Mais bref, sur cette campagne réquisition, en fait, nous ce qu'on faisait une fois que c'était ouvert, après, je parle là aussi un peu spécifiquement d'ouvrir avec des personnes exilées et du coup, avec tout un enjeu de hiérarchisation un petit peu dans la lutte, parce que la structure de la société fait que nous, on est blancs, on était blancs, on avait plus de connaissances et tout ça. Les personnes avaient des demandes et il fallait essayer de sortir du truc d'être juste dans un peu une sorte de prestation de service qui pouvait frôler avec l'humanitaire. Du coup, nous, on avait envie comme ça, on poussait à faire plein de réunions pour pousser à des collectifs d'habitants, et on y arrivait plus ou moins, mais régulièrement on y arrivait. Et du coup, on essayait comme ça de faire descendre un peu plus d'horizontalité, même si elle n'est jamais totale. Et du coup, de ces collectifs d'habitants, habitantes, on pouvait d'une organiser un peu des ravitaillements en bouffe, en matériel, en vêtements, mais aussi genre s'il y a besoin de réparation, et de faire les choses ensemble. Et quand il y a une expulsion qui arrive, et ben on organise ensemble des manifs, et au maximum c'est les personnes qui habitent qui prennent la parole et qui vont, parce que les autorités souvent elles vont chercher le petit porte-parole. Babtou quoi, blanche ou blanc, dire en fait là vous allez discuter avec les personnes qui habitent et nous ce qu'on va faire c'est faire la traduction, enfin c'est tout, des trucs comme ça. Et du coup de faire des plus ou moins grosses manifs, mais même des fois on avait des manifs à 50 personnes où il y avait une bête d'ambiance, où ça faisait méga du bruit et où en fait t'es sous les fenêtres de la mairie et t'as tous les employés de la mairie qui rentrent, qui sortent et qui voient les gens avec aussi les gamins. Faire tarpin de bruit, et du coup bah il y a un moment donné où ça paie. Au bout d'un an, au bout de deux ans, t'obtiens un peu plus de temps dans ton squat. Tu sais que ils savent que si t'expulses en fait ça va refaire du bordel, et puis du coup t'obtiens un peu plus de temps, et puis au fur et à mesure aussi t'obtiens une réunion avec l'adjointe à la solidarité la solidarité et la cohésion sociale, enfin un peu la misère quoi, et puis qui t'explique que c'est pas qu'il y a plein de trucs qui sont pas possibles, peut-être on y reviendra, mais en obtenant ce truc là bah en fait tu mets en contact directement les gens avec les autorités de la ville et t'essaies de soutenir ça. Bon, c'est une stratégie, elle a ses limites, je veux dire, parce que de toute façon toutes les stratégies qui impliquent les institutions ont leurs limites, celles du jeu des institutions, mais par exemple, ça permet qu'il y a un immeuble, un immeuble qui a participé à toute cette dynamique. Bah, il est expulsable depuis deux ans, mais les gens y habitent encore. Voilà, c'est des toutes petites victoires, mais en fait, dans le quotidien, ça, c'est pas rien. Quantité de choses comme ça. Après, c'est sûr que moi, à ce moment-là, juste pour partager une frustration, les campagnes réquisition, alors que la question du logement à Marseille, c'est un des plus gros problèmes de cette ville. Bah pour l'instant ça parle pas encore à fond aux gens, on était assez en manif pour en faire parler, mais pas assez, enfin il y a un questionnement, pourquoi est-ce que ça prend pas encore beaucoup plus massivement qu'est-ce qu'on voudrait.
Ouais, Léo, tu voulais réagir et peut-être aussi pour dire bah oui, c'est des luttes qui ont porté et qui continuent à porter, et donc peut-être tu peux nous en dire un peu plus.
Ouais, pour faire le lien des campagnes réquisition jusqu'à ce qui peut se passer en termes de lutte en général à Marseille sur la question des expulsions et du logement. Déjà, sur les campagnes réquisition, on n'est pas sous le même problème, hein. On n'est pas écouté par les pouvoirs publics. On a l'impression quand même que, que les mots d'ordre qu'on propose sont un peu plus répandus. On a pu le voir dans différentes manifestations où ils ont été repris. Mais moi, ce que je voulais aussi dire, c'est qu'en fait, face aux expulsions à Marseille, en tout cas, on n'a pas 15 000 solutions. Il y a des groupes qui tentent de former des rapports de force sur d'autres sujets plus généraux. J'en profite pour faire reparler du syndicat du logement qui s'est monté récemment, qui lance une campagne sur le long terme pour construire des groupes d'habitants sur des mêmes intérêts communs par rapport à l'habitat. Voilà. Et moi, après, ce que je pense aussi, c'est qu'il y a aussi intérêt à réfléchir à nos analyses, nos mots d'ordre, nos discours. On voit bien là, dans cette émission-là, qu'on a affaire à plein de cas d'expulsion différents, il y a plein d'interlocuteurs, plein d'expulseurs à différents endroits de l'échelle. On a affaire en fait à une chaîne des expulseurs. Une logique un peu systémique, c'est pas des gens qui magouillent dans l'ombre, mais c'est des gens qui ont des intérêts communs et qui se regroupent sur l'expulsion. L'expulsion en tant que méthode d'organisation pour reconstruire la ville selon leurs intérêts. Et ça, je pense que c'est intéressant à avoir en tête pour analyser nos conflits, nos luttes sociales, et pour proposer des solutions différentes, aussi voir ailleurs peut-être, voir ce qui se passe en Espagne. En Espagne, par exemple, ils ont droit ils reçoivent systématiquement la date d'expulsion en avance. Ce serait par exemple une revendication qu'on pourrait porter, à obtenir la date d'expulsion très précise pour pouvoir après être à 15, 20 devant le lieu, si besoin, le jour même. Par exemple, c'est des solutions qui peuvent exister ailleurs et qui peuvent être reprises à Marseille.
Ouais, et un petit besoin de précision, vous avez parlé de campagne réquisition, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi ?
Bah, peut-être je commence et tu complètes. C'est l'idée de dire que il y a des logements vides à Marseille. En fait, il y en a beaucoup. J'ai plus les chiffres aujourd'hui, mais je crois que
57 000.
Voilà, 57 000 pour combien de personnes sans logement exactement?
16 000.
Ouais, voilà. Du coup, il y a vraiment de quoi faire en fait. Et du coup, l'idée c'était de En plus, c'était de mettre la pression sur les pouvoirs publics pour décréter une crise du logement qui existe à Marseille, non seulement sur la question des personnes qui vivent à la rue, mais en plus sur la question de l'augmentation des loyers, on a un truc qu'on n'a pas forcément parlé aujourd'hui, mais c'est un truc de malade mental, en fait, l'augmentation des loyers à Marseille ces dernières années. Et notamment en s'appuyant, ces revendications, en s'appuyant sur des textes de loi, et notamment en ville, enfin sur la ville de Marseille, ce qu'on appelle les pouvoirs de police du maire dans le code des collectivités territoriales, il y a un pouvoir de réquisition des logements vides en cas de crise du logement. Et c'était notamment, et nous ce qu'on nous répondait, notamment Madame Garino, cette adjointe, c'était oui, mais dans les faits, c'est la préfecture qui décide, nous on est coincés, on peut pas vraiment, parce que la jurisprudence fait que là, je vous parlais de jurisprudence. Et du coup, qui refusaient d'aller même au conflit avec l'État parce que la ville de Marseille n'aurait pas assez d'argent et qu'ils sont obligés d'aller demander de l'argent à l'État pour d'autres projets et que du coup, ils sont pris par des leviers comme ça. Bref, manque de courage politique camouflé en rhétorique, sans oublier que cet élu est au PC, elle est censée être communiste. Et du coup, voilà, c'était ça un peu l'idée. Et on n'a pas réussi à avoir les réquisitions et c'est plutôt parti sur des essais de convention avec d'autres gens qui étaient un bon test aussi. Mais voilà, notamment je dis cette convention parce que c'était aussi une manière pour la mairie de nous opposer, enfin d'opposer deux solutions et de choisir celle qui était la moins pérenne, c'est-à-dire la convention, alors qu'en fait elle pouvait se conventionnement de squat alors que ça pourrait se compléter. Voilà, ça c'était le truc de départ. Après aujourd'hui, peut-être.
Mais aujourd'hui c'est pas vraiment différent, hein. C'est ce que je disais juste avant. Madame Garino, elle nous dit la même chose que ce qu'elle disait avant, en tous les cas. Elle nous dit qu'elle ne peut pas le faire parce qu'elle ne connaîtrait pas, a priori, la liste des personnes qui pourraient bénéficier d'un logement et d'une réquisition. Elle ne connaît pas non plus la liste des logements vacants. Bon, sur les deux points, elle se trompe. Enfin, elle le sait très bien. Et puis, plus généralement, en fait, moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a des logiques électorales, en fait, qui rentrent en jeu. C'est-à-dire que, le PS Printemps Marseillais, ils n'ont pas intérêt à froisser un électorat de propriétaires. Donc, on en revient à cette logique-là, justement, d'idéologie de la propriété qui sous-tend beaucoup de politiques de la ville, y compris les politiques d'expulsion, encore une fois.
Ouais. Et pour plus de détails sur la réquisition, n'hésitez pas à aller écouter l'émission sur la réquisition que nous avons fait au mois de décembre et que vous trouverez sur le site de Radio Galère en réécoute.
Oui, merci pour cette petite précision. Là, effectivement, il y a tous les détails techniques de la réquisition, mais on peut s'arrêter là sur ce point-là. Peut-être revenir un petit peu sur ce que tu disais, Léo, sur cette chaîne des expulseurs, sur qu'est-ce que ça crée, en fait, ces expulsions-là dont on a beaucoup parlé, cet état des lieux qu'on a fait, et quand même un peu en long, en large et en travers. Mais qu'est-ce que ça a créé, en fait, sur la ville de Marseille? Concrètement, c'est quoi les effets combinés de ces expulsions? Et est-ce qu'on observe des choses, même si les chiffres sont très difficiles à trouver, même si... voilà. Léo.
Ouais, je peux commencer, puis on me complétera. Il y a quelque chose qui est assez clair, c'est que Gaudin, 2009-2010, un peu avant Marseille, capitale de la culture, et ensuite avec les grands changements qu'il y a eu rue de la République, il a assumé clairement le fait de faire de la gentrification, donc d'expulser des gens pour reconstruire un centre-ville plus attractif, dédié aux investisseurs, aux touristes, etc. Donc en fait, concrètement, ce qu'on observe, c'est que les intérêts des expulseurs, donc des propriétaires, de certains politiques, sont complétés, sont atteints par la logique de l'expulsion. On le voit avec la rue de la République, par exemple, qui était auparavant une rue qui habitait des centaines de familles. Aujourd'hui, à part des boutiques et quelques appartements, et du co-living aussi. On sait qu'il y a du co-living maintenant. C'est une pratique d'appartements très haut de gamme à destination des jeunes entrepreneurs. Donc on voit qu'il y a un changement social, mais qui est frappant, qui est visible et qui ne va pas s'arrêter là. Les prochaines étapes, c'est la Porte d'Aix, c'est Belzunce déjà, c'est Noailles aussi.
Oui, juste pour compléter sur Rue de la République, c'est une rue dans laquelle on observe vraiment la chaîne des expulseurs, c'est-à-dire qu'il y a d'abord eu les expulsions des locataires de la Rue de la République, il y a... 10-20 ans maintenant, qui ont donc été expulsés dans d'autres quartiers, qui ont été éloignés de la rue de la République avec des promesses de relogement dans le même quartier, ce qui n'a jamais eu lieu. Le collectif Un Centre-Ville pour tous qui le raconte très bien et on les remercie d'avoir lutté et su raconter cette lutte des locataires. Et puis ensuite, c'est des squats qui ont ouvert et dont on a parlé au cours de cette émission, qui ont ouvert dans ces logements devenus vides et qui se sont fait à leur tour expulser. Donc il y a une chaîne aussi chronologique, temporelle des expulsions où on maintient, là en l'occurrence, cette lutte, elle est très emblématique hein, de cette systémisation des expulsions. Puisqu'elle est maintenue vide depuis bientôt 30 ans, quoi. Juste pour compléter. Est-ce que vous voudriez réagir, Ito, Léon, sur ce sujet-là, sur les dynamiques dans la ville, là, ce qu'on observe un petit peu là, tu parlais de Belzunce, Noailles, Porte d'Aix. Est-ce que vous avez envie d'en parler un petit peu ou on peut aussi s'arrêter là sans problème?
Non, mais moi je suis complètement d'accord. Et même on regarde au niveau des chiffres, c'est les quartiers où les expulsions sont les plus importantes. Et c'est parce que c'est là où les loyers sont les plus. Enfin, il y a une plus grosse augmentation des loyers, et notamment sur le troisième, qui est l'arrondissement de Marseille, où il y a le plus d'expulsions pour impayés. C'est aussi parce qu'il y a une très forte précarité, mais c'est aussi parce qu'il y a une volonté, notamment le premier et le troisième, de vider les logements. Il y a plein de congés illégaux et on sait très bien que c'est pour faire du Airbnb ou pour pouvoir augmenter les loyers. Donc ça participe exactement à ce que tu décrivais de vider le centre-ville de ses habitants historiques et de gentrifier le centre-ville de Marseille, quoi.
Bah ouais, et puis peut-être une dernière anecdote qui n'est pas une anecdote, mais enfin, tu parlais de Porte d'Aix et tout ça. À Porte d'Aix, il y a eu, on parlait pas des campements et tout, mais il y a eu, notamment pendant le confinement, un campement de camarades exilés qui s'est fait expulser de manière extrêmement énervée. Et je reviendrai pas sur tout le processus de ça parce qu'on n'a pas le temps, mais comment dire, pour construire en fait, parce que c'est très parlant. pour construire ce qu'ils ont appelé l'IMVT, l'Institut Méditerranéen de la Ville et du Territoire. Et son slogan, c'est « Pour une ville apaisée de demain ». Voilà, donc en fait, une ville apaisée de demain qui s'est juste construite sur une expulsion ultra-vénère de gens qui dormaient à la rue, mais ultra-vénère avec des agressions de vigile, des faf de l'école de management, parce qu'il y a des gros faf dans cette école de management. Voilà, et une fois encore, une réponse de la solidarité, des militants qui sont là, malgré la fatigue, et qui trouvent des moyens à la place de la préfecture et de la mairie, qui promet des relogements qui ne viennent pas. Et à l'époque, la CRI était occupée, donc ils sont venus dormir à la CRI occupée, prendre part à l'occupation, jusqu'à ouvrir un autre bâtiment de la ville, de la mairie, qui, dès qu'il y a une faiblesse militante, a trouvé un défaut dans les eaux pour dire, dans le circuit d'eau, pour dire qu'il fallait les expulser. Enfin, voilà, mais ensuite, ils ont retrouvé d'autres choses, mais c'est toujours la solidarité militante. Et par rapport au... Je sais pas, moi, j'ai... On est un peu pris entre cette solidarité qui use mais qui existe toujours, trouver des solutions institutionnelles face à des gens qui, genre, on l'a dit, n'ont pas envie, et c'est pas le projet politique en fait de faire des logements pour toutes et toutes en bon état et avec des loyers bas, voire gratuits, parce que ça devrait être gratuit d'habiter quelque part. Donc, et en même temps, c'est bien de faire ça et aussi peut-être à réfléchir, je pense, vu les... Donc ils viennent à savoir comment est-ce que on n'est pas que sur du ressort légal, mais comment est-ce qu'on arrive à tenir les lieux et les habitations et les propriétés d'usage en fait par des moyens un peu plus encore plus autonomes, encore plus autogérés quoi.
Ouais, en tout cas la lutte continue, un bel avenir devant elle. Et en parlant de lutte, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite manifestation très prochainement? Et si oui, quel est l'appel, quelles sont les revendications qui portent cette manif?
Est-ce qu'il y a une manif? Ah oui, si, carrément, le 28 mars, le 28 mars prochain, 17h, rendez-vous au Palais de Justice pour une manifestation à quelques jours de la fin de la trêve hivernale. C'est aussi une manifestation qui est nationale, qui est partout en France, pour le droit et la liberté d'habiter, contre les expulsions. On remontera ensuite idéalement vers la plaine. On remontera vers la plaine où il y aura des stands, un spectacle aussi. L'idée, c'est voilà d'afficher notre clairvoyance vis-à-vis de nos ennemis, nos adversaires politiques, et en même temps montrer notre solidarité, la pluralité habitante, le fait qu'on est tous concernés de la même manière en tant qu'habitants de Marseille.
Oui, merci. Et après, s'ensuit tout un tas de revendications qu'on ne va pas énoncer ici, car ce serait beaucoup trop long de les citer, mais qui ont été voulues les plus larges possibles parce qu'on est très nombreuses à être concernées par ces logiques d'expulsion, de délogement, quelles que soient les manières par lesquelles ça passe, et que ce soit, on en a beaucoup parlé, par la dégradation de l'habitat ou plein d'autres manières légales et illégales. Et donc on se retrouve le 28 mars à 17h devant le Palais de Justice pour une manif joyeuse et qui sera chouette pour rassembler nos forces face aux expulsions. Et c'est donc là-dessus qu'on va terminer notre émission. Est-ce qu'il y a un dernier mot ou ça va? Super. Alors on va se laisser là-dessus, et juste avant de vous quitter, on vous rappelle que vous pouvez retrouver Alors la zone, ça discute sur Instagram. Waouh. En tapant Alors la zone, ça discute, c'est très simple.
Et on réécoute sur le site de Radio Galère.
Et pour qui? Et pour qui? La liberté, l'égalité, fraternité, solidarité.